Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le titre de cette édition. Élection présidentielle, le ministre des Affaires étrangères du Mali a indiqué la semaine dernière à Lomé que ces scrutins se tiendraient en mars 2022 pour des partis politiques et des organisations de la société civile. Cette date est bien tenable, mais à condition de réaliser d'abord les réformes nécessaires. Réforme politique institutionnelle, on en parlait hier. Un comité d'orientation stratégique sera créé dans le cadre de ces réformes. Il sera composé des partis politiques, des groupes signataires de l'accord de la société civile. L'information a été donnée hier lors d'une rencontre entre le Premier ministre et ses forces vives. À Kaye, près d'une vingtaine d'agents des radios partenaires de Studio Tamani participent à une session de formation sur comment les radios peuvent identifier les plus vulnérables dans les situations d'urgence de santé publique. Plus de détails dans cette édition qui vous sera présentée par Sekou Gadjigo à la mise en nom de Mamadou Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La prochaine présidentielle va-t-elle se tenir en mars 2022, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères du Mali la semaine dernière à Lomé? La classe politique et la société civile estiment que cette date est bien tenable, mais elles estiment aussi qu'il faut passer par certaines réformes. D'abord, le point avec Ali Cissé.
Pour le professeur Tiemoko Sankaré, président du parti ADEMA, l'objectif final de la transition, c'est l'organisation de bonnes élections. Et selon lui, cela a des préalables. Professeur Tiemoko Sankaré, président du parti ADEMA PHJ.
Le fait de dire que c'est les élections qui intéressent tout le monde, c'est comme pour dire que c'est la finalité de la transition qui intéresse tout le monde. Les élections, c'est la finalité. Les moyens pour y parvenir, c'est d'abord assurer la prise en charge des réformes indispensables et surtout un minimum de sécurité.
C'est le même son de cloche du côté de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Selon son président Ibrahim Sango, l'élection présidentielle est bien tenable en mars 2022. Mais il faut d'abord aller vers des réformes qui s'imposent. Docteur Ibrahim Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali.
Absolument, nous pensons que cela pourra se tenir. Mais avant que les élections se tiennent, il faut des réformes. Un, la sécurité. Deux, les réformes. Et trois, l'organisation des élections. Tant qu'il n'y a pas les réformes politiques institutionnelles, on ne peut pas aller à des élections propres. Donc les élections, à notre sens, sont le dernier maillon de ce que la transition doit faire.
De plus en plus, des observateurs se disent sceptiques quant au respect du délai imparti pour la transition. Cependant, ils préviennent qu'une telle situation serait un échec pour les autorités de la transition.
Et dans le cadre de la concertation pour ces réformes politiques et institutionnelles, le Premier ministre a rencontré hier les forces vives de la nation et il a été annoncé au cours de cette rencontre la création d'un comité d'orientation stratégique pour ces réformes. C'est un organe consultatif et inclusif qui sera composé des partis politiques, des mouvements signataires de l'accord, des religieux, des femmes et des jeunes. Après consultation avec ces forces vives, le Premier ministre établira la liste nominative de ses membres. Ce comité aura pour vocation de fédérer les énergies et proposer des stratégies pour la conduite de ces réformes. Écoutons Mokhtar Ouane, Premier ministre du gouvernement. Il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
Lorsque les Maliens se réunissent, se rassemblent, qu'ils regardent dans la même direction, qu'ils se parlent, ils font des bons en avant. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Plus de 5 heures de discussion, nous sommes parvenus sur une base très largement consensuelle à mettre en place un cadre d'échange et de discussion dénommé Comité de l'intention stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. Et dans les tout prochains jours, je formaliserai cela de manière à ce que nous puissions accélérer la cadence à partir de maintenant. Pour que sur les grandes questions de réforme politique institutionnelle voulues par nos concitoyens, nous puissions avancer très rapidement sur ces questions. Il faut que les Maliens, nous nous retrouvions tous autour de ce bien commun que nous avons.
À l'instant, c'était Mokhtar Ouane, chef du gouvernement. Il était interrogé par Moussa Malé Sissoko. Vous pouvez réagir donc à ces informations sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako, l'ancien meneur du coup d'État de 2012, Amadou Ayassanogo, et ses co-accusés sont désormais libres. C'est la décision prononcée ce lundi matin au cours du jugement de l'affaire dite de l'assassinat des 21 bérets rouges. Le général Sanogo et ses co-prévenus bénéficient ainsi de la loi d'entente nationale adoptée en 2019. Ce texte prévoit l'amnistie ou la grâce pour les auteurs de certains crimes commis pendant la crise de 2012. Si les avocats de Sanogo saluent cette décision, une victime dénonce ce procès. Fatih Attara.
Les délibérés de la cour n'a pas duré plus d'une heure. Amadou Ayassanogo et ses co-accusés sont libérés dans l'affaire dite de l'assassinat de 21 bérets rouges. Une décision qui satisfait les avocats de l'ancien chef de la junte de 2012. Ceux-ci se réjouissent de l'application de la loi d'entente nationale au profit de leurs clients. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, un des avocats des accusés.
Effectivement, on s'attendait à cette décision parce que la loi d'entente nationale est une loi d'équilibre. Donc c'est une loi qui a été votée comme telle et aucune personne ne peut s'opposer à l'application d'une loi tant qu'elle est encore en vigueur. Nous pensons que c'est une bonne décision qui rentre dans le cadre de la loi et de l'ordonnancement juridique des choses au Mali.
Les parents des victimes ne s'opposent pas à la décision. Toutefois, ils demandent les corps des personnes tuées pour organiser les funérailles.
Chacun a eu sa maison et la somme qui lui a été promise. Mais la grande requête était d'avoir les corps pour faire des funérailles, ce qui n'est pas fait.
Toutefois, Aminata Soumaré, une femme qui s'est dit victime d'un viol lors de ces événements, dénonce une parodie de procès et elle menace de porter plainte auprès des juridictions internationales.
C'était un procès déjà arrangé à l'avance. Moi, je m'attendais à une telle décision. Je ne me fatiguerai pas au Mali pour faire un pourvoi à la cassation. Je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit.
Après la libération de Amadou Ayassanogo au nom de la loi d'entente nationale, des observateurs s'interrogent sur le sort d'éventuels autres auteurs de crimes dans la crise malienne. Pour des organisations de droits de l'homme, cette loi d'entente nationale fait la promotion de l'impunité.
Le reportage de Fatih Attara, comment les radios peuvent-elles identifier les plus vulnérables dans les situations d'urgence sanitaire publique? C'est l'objectif d'une session qui a démarré hier lundi à Kayi en faveur des radios communautaires. Près d'une vingtaine d'agents des radios partenaires de Studio Tamani y participent. Le point avec notre envoyé spécial à Kayi, Juliette Koulibaly.
Cette session, selon les initiateurs, permettra d'outiller les participants en matière d'urgence sanitaire afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les localités de la région de Kayi, l'une des premières touchées par la pandémie. Issiaka Koulibaly, coordinateur régional de l'URTEL à Kayi.
Les radios, je peux dire aussi que nous sommes les plus vulnérables et les plus exposés. Donc ça va nous permettre d'être informés, parce que là il va y avoir des experts de la santé. On parlait même de la situation épidémiologique et à notre retour dans nos organes respectifs, nous on va faire une rencontre avec tous les personnels, les former aussi, les informer de tout ce que nous avons appris ici.
Les participants se réjouissent de l'organisation de cette session. Ils estiment qu'elle va leur permettre de mieux sensibiliser la population de Kayi où les mesures barrières ne sont pas respectées.
Les sensibilisations, ce n'est pas facile ici à Kayi, mais je pense que ça va renforcer davantage mes efforts pour pouvoir informer et sensibiliser la population kayisienne concernant les mesures barrières.
En tant que média encore, il faudrait quand même que je sache à qui m'adresser en cas de pandémie. Et quelles sont les personnes que je dois toucher les premiers, à qui je dois m'adresser en premier lieu.
Il faut noter que cette session sur les radios communautaires et d'urgence sanitaire se poursuit jusqu'au 17 mars prochain. Juliette Koulibaly, depuis Kayi pour Studio Tamani.
8h08 à Kayi. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. À la date d'hier, lundi, 20 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. 8 patients sont guéris et 3 sont décédés selon les autorités sanitaires. La situation cumulée est donc de 8933 cas positifs, 6511 guéris et 363 décès. Retrouvez à présent la rubrique Actu Covid présentée ce matin par Aïssa Tadjara.
Studio Tamani. le Mali a reçu un premier lot de vaccins contre la COVID-19 il y a quelques jours à Bamako. Il s'agit de 396 000 doses. À ce stade, la date exacte de démarrage de la vaccination n'est toujours pas connue. Cependant, l'efficacité de ces vaccins suscite des réactions chez certains Maliens. Mais le ministère de la Santé tente de rassurer l'opinion nationale. Les points avec Khalifa Guita.
Au cours du grand dialogue des Studio Tamani qui s'est intéressé à ce sujet la semaine dernière, le président de l'association Amark s'est interrogé sur certaines questions. Mamedi Djoula Dramé a demandé les mesures prises par les autorités pour le bon déroulement de la vaccination.
Généralement, ces vaccins sont détournés de leurs objectifs. Il y a des questions à poser par rapport à la fiabilité même de ces vaccins. Chaque jour, nous avons des nouvelles surprises concernant en tout cas cette maladie. D'une variante, nous sommes à 3 variantes maintenant.
Le chargé des communications du ministère de la Santé rassure que le vaccin est efficace. Markache Dao déclare aussi que des dispositions sont prises pour la réussite de la vaccination.
Ici, les conditions de conservation nous permettront de garder cette même efficacité du vaccin jusqu'à ce que l'ensemble des cibles reçoivent ce vaccin-là. Donc, on n'a pas peur que la qualité va se détériorer faute de mauvaise conservation. Tout va se passer dans une transparence totale. Cette inquiétude ne sera pas fondée.
Dans certaines localités du pays, les avis divers sur ce vaccin. C'est le cas notamment à Bamako, Yoroso et Koulikoro.
Je suis au courant de ça, je suis prêt à me faire vacciner.
J'entends les rumeurs que le Mali a reçu un vaccin contre la Covid, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux.
Je ne vais pas encore réfléchir sur la question, mais j'ai besoin encore de plus d'informations par les scientifiques.
Des membres de la société civile demandent aussi aux autorités d'intensifier la sensibilisation pour faciliter la campagne de vaccination contre la Covid-19.
À présent, la question d'auditeur, c'est professeur Yakuba Toloba qui répond. Il est le responsable du deuxième centre de prise en charge de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
Allô, professeur, est-ce que le biais de banque peut être un facteur de transmission du virus?
Si un papier peut transmettre, ça veut dire que les biais de banque peuvent transmettre. Mais une chose est sûre, les biais de banque qu'on enlève dans les guichets sont des biais sécurisés. Peut-être c'est des biais qui sont dans nos commerces, au marché et tout ça. Quelqu'un touche, il prend les biais. Ce n'est même pas le coronavirus. Même tu peux attraper la grippe à travers ça.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Voyons à présent ce qui fait l'actualité à l'intérieur du pays. Toujours pas de nouvelles des 6 agents de santé enlevés hier matin par des hommes armés non identifiés dans la commune rurale de Djouradougou, Kafo, cercle de Koutiala. Selon des sources sanitaires et sécuritaires, ces agents étaient en campagne de ratissage du Tracom lorsqu'ils ont été enlevés à la mairie de la dite commune. Des informations confirmées par les autorités communales. Signalons que la zone est réputée être instable depuis plusieurs mois. Des patrouilles sont de temps en temps effectuées par les forces de défense et de sécurité. Le premier tour de la vaccination contre la poliomyélite n'a pas été un succès dans les districts sanitaires de Bafoulabé. C'est dans la région de Kaye. Beaucoup de parents étaient réticents à l'administration de ce vaccin aux enfants. Raison évoquée, ça rend l'enfant malade, selon le président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire, FENASCOM. Il a fallu l'intervention des porteurs d'uniformes dans certaines localités pour faire plier les parents. Le second tour de cette campagne est prévu pour le 19 mars prochain. À Bourem, région du Gao, s'est tenu hier un atelier de renforcement de capacité des membres du réseau de plaidoyer du comité de paix. L'objectif de cette rencontre, selon les organisateurs, était de doter les participants des connaissances sur les principes de plaidoyer et lobbying pour mettre fin aux violences sexistes faites aux femmes, filles et garçons. Les artisans de Sikasso ont présenté leur mutuelle samedi dernier à leurs membres, une mutuelle qui permettra à ses adhérents de s'organiser, de créer une ligne de crédit. Selon les organisateurs, cette ligne de crédit permettra aux artisans de tisser des liens de solidarité et d'entraide entre eux, une initiative fortement appréciée par les artisans de Sikasso. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal présenté par Sekou Gadjigo. À la mise en onde de Mamadou Ouattara. Tout de suite après moi, ce sera Idrissa Sako pour la version Bamanankan. Mais n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321.